matin, quand je venais ici, en allant vers le métro, je passais devant la mairie qui est tout près de chez moi. Et il y avait devant moi, il y avait une canette d'Orangina et des papiers, je ne sais pas quoi, des mégots, un peu comme ça. Et puis je me levais les yeux et sur l'escalier, il y a un escalier qui monte pour aller dans la mairie. Escalier un peu magistral pour aller dans la mairie. C'était couvert de pétales de roses. Et je me suis rendu compte, alors quand je voyais tout l'orangina, etc., que devant, un peu là, il y avait des pétales de roses aussi. Des différentes couleurs, surtout rouge, rose et blanc. Dans le soleil magnifique comme ça, et il n'y avait pas beaucoup de monde tôt le dimanche comme ça. Et il y avait un instant où j'ai ressenti très forte quelque chose de poignant. Car je sais pourquoi il y avait ces pétales de rose. C'est parce qu'il devait y avoir des mariages hier, toute la journée. Et quand les gens sortaient de la mairie, c'est la tradition là, les gens sortent de la mairie, tout le monde les accueille, prend des photos devant, etc. Et certainement, les gens étaient. On a jeté les pétales de rose. Et c'était très poignant. Un instant où c'est comme si tout s'arrêtait et où tout y était. C'est le jour des morts. Ces pétales étaient là. Les pétales ont resté là toute la nuit. Et ils allaient probablement rester là, je ne sais pas, peut-être demain matin, il y a un éboueur qui va nettoyer tout ça, je ne sais pas, peut-être même pas, je ne sais pas. Et sachant qu'on jette les pétales de rose sur les gens pour un événement heureux comme ça, pour le mariage, pour le début de quelque chose, on jette les pétales qui sont déjà mort. Et au contraire, le jour des morts, aujourd'hui, tout le monde va au cimetière et on met des fleurs qui sont toujours vivantes sur les tombes des gens qui sont morts. Et tout ça, c'était dans un instant qui a duré comme ça. Et je restais avec ça, j'ai pris le métro. Et m'est revenu le souvenir de la première fois que j'ai rencontré le maître de mon maître, le premier entretien que j'ai eu avec lui. Je ne pratiquais pas depuis très longtemps. Et j'arrive dans l'entretien comme ça et je crois que j'ai présenté un Coran sur lequel je travaillais. Puis après, il me dit, ok, bon. Et il m'a dit, pourquoi tu fais cette pratique ou qu'est-ce que tu veux dans cette pratique? J'attendais pas du tout cette question. J'attendais, je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais pas cette question. Et un peu comme en voyant ces pétales, il y avait un instant où, comme si le sol n'y était plus, avec cette question. Et je lui ai dit, je veux voir les choses nues. J'ai dit ça en anglais. I want to see things naked. J'avais pas du tout prévu ça. J'attendais pas cette question. J'avais pas réfléchi à cette question, même pour moi-même. Mais c'était vrai. Et la raison pour laquelle j'étais amenée à faire cette pratique, c'est parce que j'avais eu un aperçu des choses nues. Les choses telles qu'elles sont, comme on dit. J'avais eu un instant comme voyant ces pétales ce matin, où tout y était et rien n'y était. Rien de ce que je pensais auparavant et tout ce qui était entièrement était présent cet instant. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que c'était toujours ainsi. Enfin, j'avais un aperçu du fait que c'est toujours ainsi. Mais c'est simplement que moi, je ne voyais pas ça. Et donc, cette pratique, pour moi, c'était... Je voulais ça. Je voulais voir ça tout le temps. J'imaginais que c'était tout le temps. Que c'était possible de voir ça tout le temps. Que ce sera... un continuum solide, fixe, permanent. J'ai repensé à ça ce matin quand j'ai vu les pétales roses. Et je crois que l'association est venue car voyant les roses, les pétales roses comme ça, je les ai vues telles qu'elles sont. C'était nu. Cet instant. C'était nu de tout ce que j'ajoute normalement à même ma perception, etc. Et c'est intéressant qu'on a dit, ok, on va changer de perspective là. Car c'est ça dont il s'agit, c'est de changer de perspective. On a 1000 façons, 10 000, 10 millions de façons d'essayer changer la perspective. Et en fait, on peut rien faire. C'est comme si on dit, si on va dans cette direction, on va contre. Mais si on n'y va pas dans cette direction, on va rien voir non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis tout à l'heure, pendant la pause, Sophie jouait avec le chat. Le chat essayait d'attraper le reflet du soleil sur le téléphone de Sophie, que Sophie faisait danser sur le mur. Et le chat essayait de l'attraper. Elle était mais dans tous ses états, le chat. Hein. C'est ce qu'on fait tout le temps, non? En fait. Mais on ne sait pas. Le chat ne savait pas. Elle ne savait pas que c'était le reflet et que ce n'était rien, entre guillemets. Elle ne savait pas ça. Elle était entièrement dévouée à ça. Sophie savait que c'était le reflet et qu'elle faisait danser et que le chat était importé dans une entreprise vaine, en fait. C'est notre entreprise tout le temps. C'est ce qu'on fait tout le temps. Avec nous-mêmes, car nous, on est juste, on est comme cette lumière, un reflet sur le téléphone. On est comme ça aussi. On est le résultat d'un certain nombre circonstances qui se manifestent de cette façon-là. Les autres aussi, et tout ce qui nous entoure, les pétales de rose, les canettes d'orangina, le chat, soleil, et bah, on est comme le chat. On le prend pour ce que ce n'est pas, et on le poursuit, ou on le rejette, on le fuit. Le chat aurait pu avoir peur et fuir cette manifestation de lumière qui dansait sur le mur. Et on fait tout ça. Et quand je dis voir les choses nues, voir les choses libéré, entre guillemets, de tout ce qu'on met dessus, c'est ça, c'est de voir que c'est ce que c'est véritablement. Et quand on voit ça, c'est très poignant. C'était poignant de voir le chat faire ça, de le voir chasser ça. Parce que c'était poignant, parce que je sais que je fais ça aussi. Et je sais ce que ça me fait, la vanité de la chose, dans le sens, vanité dans le sens que c'est, je ne vais jamais l'attraper, ce bout de lumière qui danse sur le mur, jamais. Et la vanité de me donner une existence dans lequel je crois, qui n'est pas, en fait, une image. La poète américaine Anne Waldman écrit quelque chose du genre « Je suis en train de mettre du maquillage sur l'espace vide. » Avec des bijoux, des bracelets qui font du bruit sur l'espace vide. En même temps, ce qui le rend poignant, c'est que c'est vivant tout ça. C'est qu'est-ce qui nous anime en faisant tout ça? Qu'est-ce qui nous amène à poursuivre ce qui est chimère? On dit ça chimère? Ouais. C'est pour ça qu'on s'assoit sur le coussin, en fait. C'est parce que c'est la seule réponse, en fait. C'est de s'asseoir et juste être ici maintenant. Et ce n'est pas facile, c'est pas une mince affaire, comme on dit, de juste être ici. Avec ce qui est. La plupart du temps, on n'est pas. On est en train de penser, de cogiter, d'organiser, de planifier, de réfléchir, de dormir. Mais ce n'est pas du tout ça dont il s'agit, s'asseoir. Et en même temps, c'est exactement ça dont il s'agit. Parce que, à un moment, peut-être, il y aura cet instant où on voit les pétales de rose. Et on voit Le chat n'a pas la possibilité de voir l'illusion de ce qui danse sur le mur. Le chat n'a pas cette capacité. Il n'a pas cette capacité de voir que c'est son esprit qui fabrique ça, cette croyance, disons. Nous, on a cette possibilité. On a cette capacité. C'est une des choses qui rendent l'être humain singulier. Le même moteur ou le même esprit qui nous confond, qui nous amène dans la confusion et l'ignorance, c'est ce même esprit qui nous libère. Ou qui peut être libéré. Qui libère et qui peut être libéré. C'est pour ça que j'ai dit que, bon, quand on s'assoit sur le coussin, il y a toutes ces. On cogite, on mijote, on fabrique, on projette, on saisit, on fait toutes ces choses-là, on dort, on imagine, on fantasme. Il s'agit de tout ça. Quelle est l'origine de tout ça? Quelle est la consistance de tout ça? De quoi il s'agit tout ça? C'est pour ça que je crois que je vous ai raconté que j'avais rencontré cette personne à Lisbonne qui tiennent le centre de Deshimaru. Ouais. J'ai raconté ça. Ouais. Et ça m'avait tellement... C'était poignant aussi, ça. Que... Il disait, mais avec conviction, qu'il ne pouvait pas... Il ne m'a pas dit, mais il manifestait ça, et les autres m'ont dit qu'il a dit ça, qu'il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas faire comme ça, donner un talk, ou même diriger une méditation, qu'il n'était pas dans sa salle de méditation, dans son centre. Et que cette salle, il fallait avoir une dimension précise, avec des coussins précis, avec des habits précis. En dehors de ça, c'était pas possible. Et c'était poignant pour moi de voir combien il se limite avec ça. Bon, c'est poignant parce que je sais comment je me limite, pas de la même façon. Mais je peux me limiter aussi d'autres manières. Ça revient au même. Et je n'avais pas du tout de objectif autre que juste accepter son invitation et déjeuner avec lui, discuter avec lui. J'avais aucune attente à part ça. Puisque je n'avais pas d'attente, enfin, peut-être j'en avais, mais j'essayais de me libérer de ce que j'attendais, de cette rencontre, etc. J'ai pu juste recevoir ce qui venait dans l'instant. Et de plus en plus, bon, ça fait 15 ans maintenant que j'enseigne comme ça, et au début, quand j'ai commencé ça, Hiroshi, quand j'avais des difficultés au début, Hiroshi m'avait dit cette chose que je mais qui continue de, je continue de l'approfondir, ce qu'elle m'a dit. C'était, tu dois rencontrer les gens là où ils sont. Quand elle m'a dit ça, ça m'a... c'était une claque. Et ça, je continue, comme j'ai dit, d'approfondir ça. Rencontrer les gens là où ils sont, c'est de ne pas être attaché ou avoir une idée préconçue de là où ils sont ou là où je suis, ou même ce que c'est là, ou même ce que c'est être là où ils sont. C'est une pratique extrêmement profonde de lâcher prise. Lâcher prise d'une façon très concrète d'être quelque part, d'être quelqu'un quelque part avec quelqu'un qui est quelque part, disons. Et bon, je pourrais citer nombre de choses que Roshi m'a dit pendant ma formation et tout mon travail avec elle, les pratiques, etc. Mais là, c'est quelque chose d'essentiel qu'elle m'a dit. Et puisque elle me rencontrait là où j'étais, elle a pu dire ça. Elle n'avait pas du tout pensé dire ça. C'est pour ça que c'était tellement juste, parce que elle m'a rencontré là où j'étais, elle a répondu à ça et c'est ça qu'elle a dit. C'est un peu comme quand tu rencontres Genpo pour la première fois. Sans le savoir, il m'a rencontré là où j'étais et je le rencontrais là où il était. Et j'ai dit ce que j'ai dit parce que c'était ça. C'est comme Trungpa dit, c'est deux portes qui s'ouvrent sur l'espace vide. Ça fait peur quand même. Ça fait peur. D'abord, ça fait peur de s'ouvrir la porte. Et l'espace vide, surtout de s'ouvrir sur l'espace vide. Ça fait peur. L'idée fait peur. Mais quand on le fait, il n'y a pas peur ou pas peur. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a ni peur ni pas peur. C'est juste ce que c'est. C'est la nature même de cette, quand on dit, être avec les choses telles qu'elles sont. Alors ce matin, quand j'ai vu les pétales de rose, je pense que j'ai pu rencontrer les pétales là où ils sont, parce que ça fait une semaine qu'en pratique, ça fait une journée, c'était une journée hier où on s'est assis, bien qu'hier soir, bon, je me suis laissée distraire, bon, tranquillement, hein, j'étais toute seule chez moi à me distraire, mais c'est pas comme si j'allais faire le brin ou quoi, mais... Et pendant la semaine même, ça me revient, un soir, je rentrais du travail, j'avais une journée très chargée, etc. Et j'étais toute seule là pour dîner. J'avais mon assiette, j'avais pris un petit verre de vin et il y avait quelque chose à la télé que je voulais voir, mais c'était juste la fin. Donc je regardais la fin de ce qu'il y avait à la télé. Puis j'ai dit, bon, bah, je vais amener mon assiette et retourner à la table. Et mon assiette était quasiment vide. J'allais me servir des salades et j'ai pris mon verre et les assiettes, etc. J'ai éteint la télé et j'ai tourné pour continuer. Et j'ai trébuché sur le tapis. Et en tombant, et j'ai déjà eu cette expérience une autre fois, mais là je me suis blessée l'autre fois assez, je me suis ouvert la lèvre là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je parlais de ça. Cette fois-ci, c'était la même expérience en tombant d'une lucidité extrême. Et je pense qu'on a tous plus ou moins eu ce genre d'expérience, en tombant ou dans un accident de voiture ou d'autres circonstances où on est soudain, le sol se dérobe et on n'est plus, c'est un choc. Et donc en tombant, il y avait cette espèce de lucidité et j'allais. Tout était compliqué parce que j'avais un demi-verre de vin et une assiette dans la main. Si je n'avais pas ça, je pense que ça aurait été beaucoup moins compliqué. Et que l'espace était assez étroit. Bon. Et j'allais avec, d'une certaine façon. Mais tout était, comme je dis, comme on voit dans le film Spider-Man, par exemple, tout était en ralenti et en magnifié. Et c'est presque comme si j'ai vu le verre en train de se casser et le vin, les gouttes de vin en train de et moi comme ça. Effectivement, le verre s'est complètement éclaté. Il y avait du vin partout, bien que c'était un demi-verre, hein, c'était pas énorme, mais bon. En tombant, l'assiette n'était pas cassée. En tombant, la dernière chose que j'ai entendue en tombant, c'était ma tête qui faisait tic contre un placard. C'est comme si toute la séquence se terminait avec tic. Mais la séquence durait à peu près tic, comme ça. Très court, la séquence, mais c'était hors du temps et hors d'espace. Dans cette extrême lucidité où les choses sont nues, où nos concepts, nos idées, nos opinions, tout est parti. Et on est juste là, en train de tomber. On est juste tombé. Après, il a fallu. Bon, j'ai vérifié que je n'étais pas sérieusement blessée, bien que je me suis cognée la tête. J'étais où là? C'était pas très très fort parce que je pense que j'ai freiné un peu la chute. Mais... Il a fallu tout nettoyer. Et j'ai nettoyé toujours dans une sorte de. Pas la même lucidité, mais j'étais vraiment dans une chose après l'autre, fais ce qu'il faut pour nettoyer tout ça. Au point où, d'une façon très méticuleuse, j'ai ramassé tous les bouts de verre qu'il y avait, comme ça. Bon, je ne pouvais rien, le tapis est taché avec du vin. Verra. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis de l'eau gazeuse et du sel, comment on fait, etc. Alors c'est un exemple qui est sans intérêt, sauf dans le sens que c'est le contenu de cette histoire, c'est la même chose que le reste de ce que je raconte. Que si on est secoué, ça peut être juste en restant sur le coussin et restant juste là avec ce qui est, essayant de ne pas bouger de cet instant, la même chose peut se présenter, la même expérience peut se présenter de cette lucidité. Ça peut être aussi dans un choc. Comme ça, c'est pour ça que dans ces histoires zen, il y a toujours le maître qui tape le disciple, ou pince son nez, ou coupe le doigt, ou tout un tas de trucs qui sont extrêmes. Parce que c'est ça qui. Ça nous choque. C'est souvent dans les chocs que ça peut être quelqu'un meurt. Et c'est un tel choc que soudain, le monde n'est plus pareil. On ne voit plus de la même façon. Ou les gens qui sont malades, qui ont une grave maladie, c'est plus pareil la façon dont ils vivent. Parce qu'ils ont été secoués de cette espèce de sommeil, cette illusion du truc qui danse sur le mur, que c'est plus possible de voir les choses comme ils ont vu auparavant. Qui a raconté ça? Ah, je crois que c'est Roshi qui a raconté ça, que quand elle était très malade il y a quelques années, elle a eu un méningite et elle a failli passer. Et elle a dit que quand elle était dans les soins intensifs, une fois que... Bon, elle avait passé une cape, elle était toujours en soins intensifs, mais elle était consciente. Le monde était complètement autre. Et toutes les préoccupations qu'avaient des gens qui venaient le visiter, etc., c'était poignant pour elle. C'est un peu comme c'est poignant de regarder le chat poursuivre cette lumière qu'il ne peut jamais attraper. C'était très poignant parce qu'elle avait expérimenté des choses nues dans ce choc d'être gravement malade. Et elle raconte que ça avait duré quand même plusieurs mois. Elle avait vécu quand même plusieurs mois comme ça, et puis après, petit à petit, ça s'est estompé, et c'est plus comme ça. Je pense que si on me questionnait là-dessus, elle dirait que, comme toute expérience directe des choses telles qu'elles sont, ça fait partie d'elle. Elle ne va pas... C'est pas qu'elle a oublié, elle sait ce que c'est, mais ce n'est plus l'actualité à cet instant même. Je pense qu'elle dirait ça. Je ne vais pas mettre des mots dans sa bouche, mais je sais par expérience que c'est ainsi, disons. Et croire que, comme moi, quand j'ai commencé ces pratiques, croire qu'on pouvait recréer ça et le poursuivre et l'attraper pour toujours, c'est aussi illusoire que le chat qui poursuit la lumière qui danse sur le mur. Et ultimement, il n'y a pas d'autre lieu pour expérimenter ça que là où tu es. C'est pour ça que je trouve triste et poignant cet homme qui est convaincu qu'il y a un endroit spécial avec des objets spéciaux où il faut l'expérimenter. Parce que c'est surtout pas là où on va l'expérimenter. Car c'est si on, je pense, aujourd'hui c'est le jour de tous les saints. Il semble que c'est ça dans la tradition chrétienne. C'est quoi les saints? Qu'est-ce qui est saint et qu'est-ce qui est sacré? Si on limite ce qui est sacré et saint à un certain contexte, un certain lieu, avec un certain dispositif, alors là, on tue le sacré. Parce que c'est mortifère, ça.
C'est ce que font les églises.
Je ne vais pas faire une généralité, mais généralement, quand on construit une doctrine et un dogme et une église, que ce soit chrétien, juif, musulman, politique, artistique, quoi qu'il en soit, on le tue. On tue ce qui est l'esprit. On tue, comme dit Trungpa, les traditions. Les traditions, souvent les conservateurs, les gens qui disent « je conserve les traditions », en fait, ils tuent les traditions. La tradition, c'est toujours maintenant, vivant, manifesté, incarné d'une façon vivant et singulier dans ce contexte-là. C'est ça la tradition. Donc, je ne veux pas mettre en cause l'Église chrétienne ou catholique, ou je ne sais pas, mais c'est un exemple de ça. Et si on voit les choses telles qu'elles sont, si on voit ces pétales de rose déposés sur cet escalier, exactement dans cet instant, dans ce contexte, etc., alors là, on voit le sacré. On voit ce qui est sacré dans ces pétales, dans cet instant, dans ce bout de marche, devant cette mairie Staline, inspirée par l'architecture de Staline, qui m'avait toujours servi, cette mairie, ce bâtiment m'a toujours servi comme exemple de exactement ce dont je dis là, c'est-à-dire que construire un bâtiment, parce qu'on fait partie, c'était une mairie communiste pendant des années, et construire un bâtiment comme les bâtiments à Moscou, c'est passer complètement à côté de ce quoi il s'agit, disons. Tout l'esprit de ce que c'était le communisme est perdu dans ça. De toute façon, c'est perdu depuis très très longtemps, ce qui était le communisme. Parce que c'était une inspiration magnifique quand même, le communisme, qui a été détourné, comme tout le reste, c'était une église, c'était devenu une église. Avec une personne malade, sa tête, Staline. Mais ça le rend encore plus poignant, ces pétales. Parce que les gens qui, probablement, souvent je passe devant, quand je passe devant une mairie, et il y a des mariages, à Montreuil, c'est magnifique les différents mariages. Souvent, c'est des Africains avec des Africaines habillées dans les trucs invraisemblables, avec la musique et chantent, etc. Ou c'est des musulmans, ou c'est des gens des milieux très populaires, mais qui sont endimanchés, comme on dit. Et ça me donne les larmes aux yeux, même. C'est magnifique, ça. Ou c'est des gens ordinaires, des bobos même, parce qu'il y en a. C'est tout ce qu'on peut imaginer qui sort de cette mairie après cette rite qui joigne tous ces êtres, toutes ces individualités qui se joignent dans cette rite collectif et jettent les pétales de rose. Mais c'est magnifique, ça. C'est très très beau. Et poignant à la fois parce que les pétales de rose sont déjà morts. Et le mariage ne va plus être que c'était ce jour-là. Ça ne va plus jamais être ça, en fait. ce couple ne va plus jamais être comme ils étaient ce jour-là, à cet instant-là. Et le reste de la famille non plus. La grand-mère, bientôt, elle sera morte. Il y a des enfants qui ne sont pas nés encore, mais qui vont y être. Le couple va se fâcher. L'illusion qu'ils ont les uns l'un de l'autre, ce qui est merveilleux aussi, mais ça aussi, ça va disparaître. Ils ne vont plus croire dans, le, dans cette image qui danse sur le mur. Il va voir la personne comme elle est. Donc c'est très poignant. Et en même temps, ça nous permet de vraiment célébrer cet instant quand on voit ça. Que c'est très éphémère tout ça. C'est aussi éphémère que cette lumière sur le mur. Et pourquoi pas jeter des pétales de rose alors? Pourquoi pas? C'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Ou comme on a fait l'autre soir, boire du champagne pour notre site web. Mais si on réfléchit, ça n'a aucun sens. Ça, mais quoi? Mais pourquoi pas? On célébrait un offrande. Et on n'a aucune idée à qui on offre ça. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Évidemment, j'ai quelques idées de quelques gens qui vont regarder, etc. Mais c'est vraiment gratuit. C'est... Sauf que ça va nous coûter cher et je pense qu'on n'a pas l'argent pour ça. On va être obligé de demander des offrandes, des donations pour nous aider, mais bon. C'est gratuit. Comme des pétales de rose.
C'est un lieu de rencontre pour moi.
Voilà. Et qui est, on ne sait pas du tout qui on va rencontrer là, ou qui va venir. On n'a aucune idée. Et on a tâché d'être aussi clair et cohérent dans notre présentation et dans le contenu que possible. Hein? Ça nous a demandé un... Quand on voit avec quoi on a commencé, tout le monde donnant son parfum, son grain de sel, entre le webmaster, Lisa, Joa et moi. Mais toujours dans cet objectif, comment, quelle est la meilleure offrande qu'on peut faire? Quel est notre but avec ça? Et qu'est-ce qui peut être bénéfique pour ceux qui vont venir nous consulter, regarder? Ça clignotait, je crois. Non?
Ça continue.
Ah oui.
45 minutes.
C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de bruit et puis ça c'est. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui, je crois. Enfin, c'est ce qui m'est venu. Est-ce que vous avez des choses à dire?
Oui, moi je. Depuis tout à l'heure, je reviens à ce que tu dis sur le, cette personne à Lisbonne. Et j'ai du mal à ne pas être très mal à l'aise avec ça. Tout cette liste, en fait, elle me met en colère. Et en fait, j'ai deux musiques, deux mélodies dans la tête. Il y a un où je me dis comment se fait-il qu'il se retrouve dans cette position-là et quelle mauvaise publicité d'une certaine manière, ou mauvaise transmission, et comment est-ce que c'est possible et d'enseigner ça et je veux dire, on fait partie des mêmes écoles, et comment peut-on louper à ce point-là la cible, et que si c'était et ça nous est arrivé, un élève qui disait ce genre de choses, je dirais, il y a encore du travail. Il didn't quite get it. La transmission est un peu loin encore. Donc j'ai ce truc-là avec ce... Et puis je repensais à cet été quand j'ai vu Surya Das à New York, et on parlait de différents enseignants qu'on connaissait en commun, etc., etc. Et on parlait d'une personne que je respecte beaucoup, assez formelle, et qui était allée en Asie, et puis qui disait c'est pas du tout Surya gentiment un peu se moquait de cette personne en disant elle s'imagine que ça c'est pas du bouddhisme, et il disait il suffit d'aller en Asie pour voir que ça aussi c'est du bouddhisme, et donc je sais pas, peut-être c'est peut-être l'autre mélodie, c'est donc, et la rigidité, ça sert à, c'est utile, ça sert, c'est aussi une forme. Who knows? Mais je crois pas beaucoup à cette mélodie. Mm. Tu vois ce que je veux dire?
Mm-hmm.
Je sais pas bien quoi faire avec ça. C'est-à-dire, globalement, ça me met très en colère. Très mal à l'aise, et très mal à l'aise parce que je crois, cette personne-là en même temps enseigne, et elle enseigne dans une branche qui est un lignage global qui est le mien, et donc je sais pas.
Il y a plusieurs choses dans ça. C'est effectivement, on a cette idée que ce que nous on fait est le droit chemin. Et lui aussi, il a cette idée.
Oui.
C'est un
idée. Et qui peut peut-être probablement dire, il pourrait dire comme ces histoires des Japonais qui arrivent et qui voient comment on pratique et qui se disent.
Ouais. Donc, est-ce qu'on peut voir dans ce que nos positionnements, qu'on fait la même chose et ont une idée très étroite de comment il faut faire ou pas faire, tout en restant ouverte à qu'est-ce que c'est alors pour moi, est-ce que je peux tout inclure, est-ce que je peux inclure ce que lui il fait. Quelqu'un m'a raconté récemment que ce que maître qui n'a rien à voir avec le zen, c'est plutôt Chan, qui râle contre tous les trucs très formels et tout les autres groupes, etc., sont très attachés à leur forme et ils passent complètement à côté de ce que c'est, etc., etc. Et quand il m'a raconté ça, je dis, mais sa position, ce n'est pas être attaché à, justement, à une idée. Et il me dit, ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à lui dire ça. Parce qu'effectivement, il est très attaché à une idée de comment il faut faire ou pas faire, etc. Dire que ces gens-là sont dans la même école que nous, pas vraiment. Et que ce qui est répété, ce qu'ils font, c'est on va toujours répéter ce qu'on a reçu. Et donc, en fait, ce qu'ils répètent, c'est une supercherie, en fait.
Oui, mais c'est
il ne peut pas faire autrement.
En même temps, c'est l'école Soto, c'est...
Mais l'école Soto, c'est l'église.
Oui.
Donc, et moi, je n'ai rien à voir, en fait, avec l'école Soto, parce qu'il ne me reconnaît pas. Donc, je suis une hors-la-loi. Et même Roshi, maintenant, je pense qu'elle est hors-la-loi, parce qu'elle a fait les transmissions. Elle n'a jamais fait ce qu'il faut pour être fait partie de l'église. Et elle a fait des gens qui sont absolument pas correct vis-à-vis de l'Église. Donc,
oui, dans l'esprit du public, ça.
Oui, mais dans l'esprit du public, des grands écrivains sont Stephen King, et même Stephen King, c'est bon, hein, d'ailleurs. Donc, dans tout ce qui est le grand public. On dit que la démocratie, c'est une grande illusion, c'est de croire que ce que la majorité des gens veut, c'est ce qui est vrai. Ou bon, c'est pas vrai, ça. C'est juste parce que la majorité... Mais c'est vrai que ces gens-là, ils ont énormément d'argent, énormément de moyens. Beaucoup de gens... ça m'étonne pas, en fait. C'est pas très radical ce qu'ils font, en fait. Et ils m'ont répété à la fin de leur journée de méditation, où ils font pas beaucoup de méditation, en fait, tout le monde va boire un coup. Ça fait partie de ce qu'ils font. C'est la tradition, ce qui maintient. Pourquoi pas? Nous, on a bu un coup l'autre jour. Quand on a fêté notre... Pourquoi pas? Ce qui est important, c'est de... Ok, quel est derrière ton... C'est comme je disais l'autre soir, t'étais pas là, mais dans ce que je connais très bien, parce que j'ai une forte énergie Vajra, moi, c'est... On voit clair. Et ceux qui ne voient pas ce que je vois, ça me fout en colère. Ça, je dis pas en cet instant, mais je connais très bien ça, ce que je fais. Et ça me donne une arrogance aussi, et righteousness. Je trouve pas le mot en français de righteousness, mais c'est j'ai raison et les autres ils ont tort. Et bon. C'est une problématique quand on est pris dans cette énergie Vajra, parce que le fort attachement que j'ai à moi et mon perspective m'empêche de libérer cette énergie et utiliser justement mettre cette précision et cette profond sentiment que j'ai de quelque chose qui est véritable, de le mettre ça en œuvre pour le bienfait des autres. Pour accueillir cet homme ou ces gens qui on est persuadé qu'ils ont tort, mais si on lâche cet attachement à mon idée et à ma perspective, si on se déplace, on voit les choses autrement. on voit sa situation, il ne peut pas avoir reçu d'autre chose parce que c'est ce qu'il a reçu. Les gens avec qui il pratique, c'est ce qu'ils lui ont transmis. Donc, il n'a pas de possibilité. Et effectivement, il a le même potentiel que tout le monde de voir les choses telles qu'elles sont. Mais il est pris dans cette chose. Et je dis une chose parce que c'est une chose en fait. C'est pas une pratique, c'est une chose. C'est poignant à quel point il est pris dans ça. Et je pense que le fait qu'il m'a invité, peut-être qu'il a une idée derrière la tête, je crois qu'il doit sentir qu'il y a quelque chose qui... Il ne comprend pas très bien ce que je fais, mais je crois qu'il sait qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe là qu'il ne fait pas lui, et je ne sais pas.
Il t'a demandé de t'exprimer sur ta façon d'être zen, de pratiquer zen et d'être maître zen?
Pas au-delà d'un échange de position, un échange de pensée. C'était pas vraiment un échange cœur à cœur. Hein. Mm-hmm. C'était un échange de moi je fais ceci, et quand j'essayais de partager quelque chose, pour lui c'était ah, toi tu fais ça, moi je fais ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et ok, j'ai pas cherché à le faire.
C'est plus un aller-retour de point de vue qu'un partage de vécu, d'expérience.
Pour lui, oui, je crois. Oui, oui, pour lui, je crois. Et.
Mais peut-être que c'est sa seule façon de pouvoir faire. Et c'est peut-être déjà c'est possible. Pas mal d'aller vers toi comme ça.
Oui, oui.
Peut-être.
Je crois que c'est énorme déjà parce que les gens dans son communauté à Paris m'ont jamais invité à faire quoi que ce soit. Hein, donc. C'est déjà quelque chose, ça. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais peu importe. Peu importe. Et j'essayais d'accueillir ce qu'il disait, parce que il voulut, quand, en arrivant, il voulait que je l'offre de l'ensemble dans le, sur l'hôtel qu'ils ont, etc. Je ne savais pas du tout ce qu'il voulait, à part le fait qu'il voulait que je l'offre de l'ensemble. Et donc j'ai fait. J'ai fait, je sais offrir l'encens, et il l'a allumé, il me donnait, etc. Et apparemment, pour lui, c'est ce qu'on fait quand il y a un maître qui vient, on offre de l'encens. Ok, je l'ai fait. Bien que c'est pas du tout. Enfin, ça pourrait ce que je fais, mais je sais pas, je l'ai fait avec ce qu'il voulait. Et puis, il voulait une photo avec moi devant, etc. J'ai fait, pourquoi pas? C'est ce qu'il fait. Je l'ai rencontré là où il est, quoi. Mais quand, à un moment, une des personnes qui était avec nous, Juan, moi, j'étais allée aux toilettes, et quand je suis sortie, Juan était en train de discuter avec lui, il y avait une calligraphie sur le mur. Calligraphie en japonais. Et... Juan était en train de demander ce que t'es écrit, etc. Et le gars lui disait quelque chose en japonais. Et, mais dont il était très fier de ce qui était marqué sur cette calligraphie. Peut-être que c'est Deshimaru qui a fait la calligraphie, je ne sais pas. C'est vrai que c'était un très belle calligraphie. Et Jean dit, ah oui, mais c'est quoi, comment ça se traduit, etc. Et le gars lui traduisait en portugais, je crois. Et puis quand moi je suis arrivée, il essayait de que je sois complice avec lui. Et il m'a dit les choses en japonais. Je dis, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Et il a dit, oh, mais c'est le Nansen. C'est très célèbre, citation de Nansen. Moi, je connais très bien Nansen. On étudie les Corans avec Nansen, je connais les histoires de Nansen, etc. Et effectivement, il y a plusieurs phrases très célèbres de Nansen, etc. Et donc, je dis, ah, c'est lesquelles? Qu'est-ce que c'est? Et il a dit quelque chose en français, ça me disait rien du tout. Rien du tout. J'arrivais même pas à comprendre vraiment ce qu'il disait. Et je lui dis, ah bon, non, je connais pas. Il me dit, tu connais pas? Ah, pourtant, mais c'est très célèbre. Et je dis, non, je connais pas. Et donc, bon, j'essayais de comprendre. Bon, on est parti. Et c'était uniquement, je crois, 2 jours plus tard, quand j'étais en Séchine. Soudain, je me dis, ah bah bien sûr. C'est, en anglais, c'est ordinary mind is the way. On demande à un saint quelle est la voie, et il répète, il répond, l'esprit ordinaire, c'est la voie. C'est pas du tout ce que le gars m'a dit. Enfin, il avait dit quelque chose assez semblable pour que je puisse déchiffrer après coup ce qu'il voulait dire. Mais c'était flagrant d'un exemple d'une idée. On lui a répété que c'était ça et qu'il faudrait que ce soit sacré et que ce soit très important. Bien que je pense qu'il ne comprenait pas ce que ça veut dire, parce que sinon il aurait pu le traduire d'une façon juste. Juste. Compréhensible, c'est ce que Masumi Roshi disait. Avec cet enseignement, avec des Korans, etc., il faut que ce soit si clair qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre. Quelqu'un qui n'a aucune sophistication, aucune culture de ça. Et là, ça c'était très poignant aussi pour moi, quand je me suis rendu compte que c'est ça qui était marqué, et je suis sûre que c'était ça qui était marqué. Parce que c'est le dicton le plus célèbre de Nansen, « Ordinary mind is the way ». Et à quel point, c'est comme on chantait hier, même si on chemine dessus, si on ne voit pas le chemin, on est à des milles et des milles. Et donc, il est sur le voie, le type, mais il ne le voit pas. Donc, et combien de fois dans la journée, moi, je ne le vois pas non plus. Donc, je ne suis pas différent que lui. Alors, je crois que c'est...
5.
Il est 2h05?
Oui.
Voilà, ok. On s'arrête.